tous, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous êtes dans Lionel Camille Talk, le podcast des énigmes de notre monde. Alors, vous n'allez pas y échapper, vous allez avoir droit à mes vœux, donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, voilà, dans tous les domaines, qu'elle vous apporte vraiment tout ce que vous espérez, donc le meilleur. Voilà, donc je vais faire assez court pour la cérémonie des vœux, parce que, bon, c'est, en général, au mois de janvier, on en bouffe pas mal, donc je vais faire assez court. Je vais parler de l'avenir du podcast. Là, donc, je rempile pour au moins 6 mois, ça c'est sûr, donc jusqu'à l'été 2017. Pour l'instant, ça a l'air de plaire à quelques-uns, donc je m'éclate bien à le faire, donc je vais continuer. Mais bon, c'est vrai que si jamais j'ai plus rien à dire après, ou voilà, si je sens que, si j'ai pas de retour, si je sens que voilà, tout le monde s'en fout en gros, voilà, c'est pas, je sais pas si je continuerai éternellement, je sais pas, voilà. Donc, à voir. En tout cas, pour l'instant, tout va bien, donc là, je rampine pour 6 mois, et bon, on verra bien ce que ça donne, hein, d'ici là, voilà. Il peut se passer beaucoup de choses. En tout cas, là, vous allez bouffer encore pas mal de disparitions, parce que c'est vrai que c'est un thème qui me passionne, quoi, au-delà des affaires criminelles. C'est vrai que c'est encore, je crois qu'il y a, c'est ultime les disparitions de mon point de vue, parce que on n'a pas la clé de l'énigme, donc vraiment tout est possible. Vraiment, bon, il n'y a pas de voyeurisme là-dedans, ce qui me concerne. Hein, c'est vraiment, je trouve ça moins glauque à la rigueur que des affaires criminelles, les histoires de tueurs en série. Là, il y a vraiment, je trouve ça vraiment stimulant au niveau intellectuel. C'est ça, c'est essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Je trouve ça très puissant au niveau émotionnel, au niveau dramatique aussi. C'est vraiment, c'est un million de fois plus puissant que le meilleur roman que vous lirez, quoi. Parce que voilà, c'est réel, c'est la réalité. Donc, on le dit, c'est vrai, hein, la réalité dépasse la fiction. Donc, y a jamais rien n'atteindra vraiment l'intensité de ces histoires. Voilà. Donc je vais continuer à vous raconter certaines histoires donc tirées de mon nouveau livre, hein, Disparu dans la nature. Je travaille aussi en projet sur la suite de ce livre. Ça sera encore des histoires de disparition, voilà, dans d'autres pays. Donc voilà, donc il va y avoir encore un certain nombre d'émissions sur les disparitions donc mystérieuses donc en 2017. J'ai aussi prévu de parler de cryptozoologie aussi avec un invité, hein, que je vais recevoir. Donc là, on va partir sur notre continent, on va partir en Afrique. Et bon, il y aura aussi quelques petites surprises, je pense, de temps à autre. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, on verra ça au fil des mois. Voilà. Donc, alors je vais profiter de cette émission de début d'année pour faire des remerciements. Voilà, remercier notamment certains auditeurs. Voilà, c'est des personnes aussi que je suis, qui me suivent sur Twitter. Voilà, je pense notamment à Arthur Froment, qui m'a fait quelques retours vraiment très très sympathiques. Ça peut paraître peu de choses, mais c'est vrai que ça fait très plaisir, ce genre de retour, voilà, ce feedback. Donc merci à toi Arthur pour ton soutien, ça fait vraiment très plaisir. Merci aussi à Tocheux, donc c'est un nouveau podcasteur bordelais qui a créé un podcast qui s'appelle Roule avec moi. Il m'a fait quelques petits retours sympas, donc vraiment merci à toi. Voilà. Bon courage aussi pour ton nouveau podcast. Donc on va pas tomber dans le copinage non plus, mais je tiens à remercier vraiment, et puis à saluer surtout toute la communauté des podcasteurs. C'est pas la communauté de l'anneau, c'est plutôt la communauté du micro. Et bon voilà, je vous invite, auditeurs, à découvrir tous ces programmes, tous ces podcasts, toutes ces émissions qui sont créées par passion, par tout un tas d'anonymes. Voilà. Moi-même, il y a énormément de programmes que je découvre régulièrement. Vraiment, le podcast en France, c'est vraiment un peu le parent pauvre, je trouve. Et vraiment, je trouve que le travail, la qualité du travail de beaucoup de podcasteurs mérite d'être souligné. Vraiment, je vous invite, chers auditeurs, à être curieux, à vraiment essayer de découvrir de nouveaux programmes. Il y a des programmes dans tous les domaines, donc qui sont vraiment créés avec professionnalisme par beaucoup de personnes. Donc voilà, donc vous pouvez écouter ce qu'on recommande, bien sûr, mais aussi à découvrir par vous-même aussi des podcasts. Hein. Voilà. Donc voilà, soyez curieux, fouillez sur Internet, vous pouvez trouver des pépites de temps en temps. Voilà. Donc les podcasteurs, c'est fait. Je vais remercier aussi et surtout ceux pour qui on crée justement du contenu audio sur Internet, notamment, c'est-à-dire les auditeurs dont la majorité est silencieuse. J'ai un peu, bon, y a quelques auditeurs qui font des retours de temps en temps. Mais bon, après, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Alors, sûrement par manque de temps. Bon, il y en a aussi tout simplement, je pense, parce que voilà, ils écoutent une fois le podcast, ils arrêtent. Ça, ils accrochent pas, et ça, je peux le comprendre. Hein. Et puis, aussi, surtout, je pense, des auditeurs qui n'ont pas le temps, ou qui sont timides, ou voilà, qui n'osent pas, et voilà. Donc, je tiens à vous saluer. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'ai moyen de savoir où les gens téléchargent mon podcast. Donc j'ai bien sûr des auditeurs en France et j'en ai aussi à l'étranger. Et j'ai apparemment un certain nombre quand même d'auditeurs aux États-Unis, j'en ai quelques-uns. Donc ça fait plaisir, hein, sachant tout l'amour que j'ai pour ce pays. Donc je tiens à les saluer. Hein. Alors je sais que apparemment sur Phoenix en Arizona, je dois avoir un fidèle, ou quelques-uns, je sais pas. 303 téléchargements, donc ça fait plaisir. Alors je sais pas si c'est lié à aux Lumières de Phoenix, l'émission que j'avais fait, enfin l'émission sur les ovnis que j'avais fait avec Franck Morin, l'ufologue, on avait parlé des Lumières de Phoenix. Donc voilà, je les salue. Donc aussi Mountain View. Alors Mountain View, c'est Los Angeles. Alors ça, je sais qui c'est de Danny Bozart. C'est un copain que j'ai aux États-Unis. Je sais qu'il parle un peu français en plus, donc si tu écoutes Dany, écoute, je te salue, je te remercie pour ta fidélité, en tout cas ça fait très plaisir. Donc je suis en train de regarder en termes de nombre de téléchargements, hein. Donc j'ai aussi un Cupertino, donc c'est en Californie, Hillsboro, alors Montréal, ça c'est chez les amis canadiens, un québécois. Alors je sais que j'ai ma cousine là-bas, mais bon, 71 téléchargements, je pense pas que ce soit Yakel, à mon avis. Ça m'étonnerait. Voilà, donc pour continuer avec les États-Unis, j'ai aussi, il y a Ashburn, c'est en Virginie. Voilà, c'est près de Washington. Sunnyvale, Californie encore, beaucoup de Californiens, hein, on dirait. Écoutez, merci à vous, hein, vraiment, c'est un peu de la magie d'ailleurs, je trouve, d'Internet, c'est de savoir qu'on peut être écouté à l'autre bout du monde. C'est pour ça, c'est Internet, je trouve ça vraiment fascinant, vraiment, c'est vraiment quel outil, quoi, vraiment un outil incroyable. En plus, sachant que moi, en plus, je suis une génération qui a connu l'avant, quand il n'y avait pas d'Internet, la préhistoire. De la télécommunication, donc je vais pas dire que je suis un dinosaure, mais bon, presque. non, mais c'est vrai que c'est incroyable, justement, c'est génial d'avoir connu la période d'avant, quoi, parce que maintenant, vraiment, on a vraiment l'impression que maintenant, le monde est minuscule, quoi, on peut vraiment communiquer en temps réel, voilà, avec l'autre bout de la planète. Donc voilà, donc merci à vous. Alors il y a d'autres personnes autrement ailleurs, hein, en Europe aussi, Londres, d'autres pays européens aussi. Je pense que c'est aussi, il y a beaucoup de francophones expatriés, de personnes qui sont expatriées à l'étranger. Donc voilà, ça leur permet d'écouter des programmes en France un petit peu, garder un petit peu le lien avec leur pays d'origine. Donc si je peux y contribuer un petit peu, voilà, ça me fait plaisir. Alors, Belgique, 200 téléchargements, Belgique, Suisse un petit peu. Bon, ça, je pense que c'est notre ami Jonathan. Donc, voilà, Canada, Royaume-Uni, Espagne, Chine. Alors Chine, ça c'est mon cousin qui est à Shanghai, que je salue au passage. On va arrêter après avec le... Mais bon, c'est toujours amusant. Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai des téléchargements aussi à côté de chez moi. Parce que moi, en fait, je suis entre Rennes et Bain-de-Bretagne, donc au sud de Rennes, tout près de Rennes. Avec la géolocalisation, là, je vois que j'ai des téléchargements à 5 km de chez moi, dans les communes, et je sais pas du tout qui c'est. Donc c'est vraiment marrant, parce que ce soit à 5 km ou à 5000 km, j'ai des auditeurs anonymes. Donc c'est vraiment génial, quoi, Internet, ça abolit vraiment la distance. Et vraiment, encore une fois, quel outil merveilleux, voilà. Donc j'en profite pour vous saluer, et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez me faire des petits coucou, des petits retours, n'hésitez pas à me faire signe, hein, je suis vraiment joignable sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, je ne mords pas, à première vue, donc que vous soyez dans la commune d'à côté ou au bout du monde, merci beaucoup pour votre fidélité. Alors maintenant on va revenir au sujet de cette nouvelle émission, donc une nouvelle affaire de disparition mystérieuse. Un cas véridique, réel, authentique, tiré de mon nouveau livre « Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses ». Donc, on va toujours retourner aux États-Unis parce que voilà, ce sont que des affaires qui se passent aux USA. Alors, dans la dernière émission, je vous ai raconté l'histoire du petit Dennis Martin qui a disparu en 1969 dans le Tennessee. Alors, cette fois, on va avancer de quelques années. On va passer dans les années 70. Donc là, on va traverser les États-Unis. On va aller vers la côte nord-ouest des États-Unis, dans l'état de l'Oregon. On va remonter à 1975 pour évoquer la disparition de Charles McCullough. Donc encore une fois, c'est une histoire vraie, une histoire qui est absolument inédite en France et vraiment très intrigante, très étrange. Et donc on va procéder de la façon habituelle, c'est-à-dire que je vais vous présenter dans un premier temps les faits, c'est-à-dire que ça reprend un peu le principe du livre, c'est-à-dire que d'abord je vous présente les faits, c'est-à-dire j'ai reconstitué l'histoire à partir d'articles de presse, de dossiers, voilà, de sources vérifiables. Et dans un second temps, je vais faire un certain nombre de commentaires, d'analyses, pour essayer de vous aider à décrypter cette affaire. Voilà. Donc, on y va maintenant, assez parlé. On traverse l'Atlantique. On remonte en 1975. Nous sommes en 1975, en Virginie, sur la côte est des États-Unis. À 19 ans, Charles McCullough est promis un bel avenir. Mais avant de rentrer à l'université, il prend des vacances prolongées pour voir du pays. Passionné de photos, le jeune homme a l'intention de ramener un maximum de clichés de son périple. Aussi, il jette quelques affaires dans son sac à dos, mais emporte surtout son précieux matériel photo. Charles a sûrement lu le roman Sur la route de Jack Kerouac. Il a laissé son véhicule Volkswagen à la maison et préfère voyager en autostop. En janvier 1975, Charles reste quelques semaines chez un ami à Eugene, dans l'Oregon, sur la côte ouest des États-Unis. C'est encore l'époque des hippies et l'insouciance règne. Charles prend du bon temps et fin janvier, il annonce à son camarade qu'il part seul 2 jours au parc national de Crater Lake pour prendre des photos. Il compte y rendre en autostop. Le parc national de Crater Lake est considéré comme le joyau de l'Oregon, à environ 200 km au sud-est d'Eugene, à mi-distance entre Seattle et San Francisco. Situé au fond d'un ancien cratère volcanique et entouré de forêts sauvages, le lac est l'un des plus beaux au monde. Sa profondeur frôle les 600 mètres. Et on a longtemps dit qu'il était sans fond. Ses eaux, quant à elles, sont réputées les plus pures de la planète. Il s'agit exclusivement d'eau de pluie. Le parc national de Crater Lake est relativement isolé. Une seule route mène au site. Et d'une longueur de 53 km, la Rim Drive fait le tour du lac et offre de multiples points d'observation. Nous sommes fin janvier 1975, au cœur de l'hiver. Le parc est peu fréquenté. De plus, il a neigé abondamment à cette période, et ça ne freine en rien l'enthousiasme de Charles. Il tient à tout prix à immortaliser sur pellicule les paysages enneigés de Crater Lake. 2 jours plus tard, Charles n'est pas revenu. Anxieux, son ami donne l'alerte et les employés du parc national de Crater Lake démarrent rapidement les recherches. Le FBI est également de la partie, car on soupçonne une disparition d'origine criminelle. Le père de Charles fait le voyage en urgence depuis la Virginie pour participer à l'opération de Search and Rescue. Un nombre conséquent de sauveteurs concentre leurs recherches autour de l'entrée nord du parc. Ils passent la zone au peigne fin, malheureusement, ça ne donne rien. Les représentants du National Park Service, c'est-à-dire l'administration qui gère les parcs nationaux aux États-Unis, on arrive à la conclusion qu'il n'y a aucune chance de retrouver Charles vivant. Mais M. McCullough, lui, n'accepte pas que son fils ait pu se volatiliser de la sorte. Tandis que les équipes de Search and Rescue ont jeté l'éponge, il continue de chercher désespérément son fils pendant des mois. Il va même camper tout l'été 1975, en vain. Plus d'un an passe. Le 14 octobre 1976, deux randonneurs s'aventurent par mégarde dans un canyon de Baby Creek à 19 km à l'ouest de Crater Lake. Dans cet endroit perdu au milieu de nulle part, il trouve un sac à dos sale et en lambeaux. Les randonneurs apportent leur découverte au poste des rangers qui inspectent le sac. À l'intérieur, il trouve des équipements photo ainsi qu'une clé de voiture avec un logo Volkswagen. Dans le dossier de disparition de Charles McCullough, il est indiqué que le jeune homme est propriétaire d'un véhicule de la célèbre marque allemande. Les fonctionnaires ne mettent donc pas 50 ans à faire le lien. Toutefois, ils sont très surpris qu'on ait trouvé le sac de Charles à Bybee Creek. Comment Charles a-t-il pu se rendre jusqu'à cet endroit très éloigné du lac? Surtout que le jour de sa disparition, la région était recouverte par 2,50 m de neige fraîche. Il était rigoureusement impossible de circuler en ski, en raquette et même à motoneige. De plus, Charles était mal équipé. Il n'avait emporté qu'un petit sac à dos. Eu égard aux conditions climatiques, parcourir une telle distance à pied était infaisable. Une patrouille de deux rangers à cheval part sans tarder à Bybee Creek pour tenter de trouver davantage d'éléments. Arrivés sur place, ils explorent les lieux en quête d'indices. Près d'un pin de glace effondré, ils repèrent des fragments d'ours qui jonchent le sol. Ils descendent de cheval et vont voir de l'autre côté du tronc. Pour les rangers, c'est un choc. En plus de 20 ans d'expérience, ils n'ont jamais vu ça. Ce que les fonctionnaires du NPS voient les perturbe tellement qu'ils décident de sécuriser le périmètre avec du ruban et d'appeler tout de suite le bureau du FBI de Portland afin qu'ils envoient une Evidence Response Team, une équipe spécialisée en analyse de scènes de crime. Tout laisse à penser qu'on a trouvé Charles McCullough, ou du moins ce qu'il en reste. Pour que vous visualisiez bien la scène, imaginez que vous êtes debout, vous déboutonnez votre jean, vous défaites votre ceinture, vous baissez la fermeture éclair, et laissez tomber le pantalon et votre slip à vos chevilles. Les vêtements reposent de cette manière déconcertante sur le sol forestier. Un bout de tibia dépasse d'une des jambes du jean. Au fond des chaussettes, sous le jean, on trouve les os doigts de pied de Charles. Le plus gros de son squelette est absent, comme le reste de ses vêtements, chemise, manteau et ses chaussures. On ramasse juste le sommet de son crâne à 4 mètres. D'innombrables fragments d'os sont éparpillés tout autour. En bref, c'est comme si Charles avait fondu sur place. C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue les Rangers. Contre toute attente, les causes du décès sont jugées naturelles par les experts médicaux légaux. Selon eux, Charles n'était pas préparé pour affronter un climat très rigoureux. Il serait tout simplement mort de froid. Les rongeurs auraient réduit son squelette en petits morceaux. Une des questions qui taraudent les Rangers est de savoir où sont passées les chaussures de Charles. Durant leur carrière, ils ont eu l'occasion de récupérer des dizaines de corps dans le parc. D'habitude, ils trouvent toujours leurs chaussures ou leurs bottes. Elles sont indispensables en forêt. Les animaux ne les emportent pas. Et vu les matières qui les composent, elles mettent un siècle avant de se dégrader. Dans le cas de Charles McCullough, on ne les a jamais trouvées. La thèse de l'hypothermie ne convainc pas tout le monde, à commencer par le père de Charles. Monsieur McCullough est convaincu que son fils a été assassiné et volé. La preuve, selon lui, est qu'on n'a jamais retrouvé ses équipements photos, ayant plus de valeur. Mais ça n'est qu'une intuition. Aujourd'hui encore, nul ne sait quelles ont été les dernières heures de Charles McCullough. Voilà, je vous ai présenté les faits, maintenant on va passer à la partie commentaires. À première vue, l'histoire de Charles McCullough semble n'être qu'un triste fait divers de plus. Adepte de l'autostop, aurait-il fait une mauvaise rencontre? Les autostompeurs sont en effet une population à risque. Pour ne citer qu'un seul exemple, Randy Stephen Craft, surnommé le Freeway Killer, le tueur de l'autoroute, a été condamné pour avoir violé, torturé, et tué au minimum 16 autostoppeurs entre 1972 et 1983, notamment dans l'Oregon. Deux détails suggèrent que Charles a pu rencontrer un prédateur sexuel. Son pantalon déboutonné et sa fermeture éclair baissée. On peut très bien concevoir qu'un tueur en série ait pu violer et tuer Charles après l'avoir pris en stop. Il aura ensuite abandonné son cadavre aux animaux sauvages dans le parc national de Crater Lake. Cependant, cette théorie ne tient pas la route pour deux raisons. Tout d'abord, les serial killers sont très organisés et minimisent la prise de risque. Sachant qu'une seule route mène à Crater Lake, un psychopathe ne se serait pas enfoncé à 20 km à l'intérieur du parc. Ça aurait été le meilleur moyen de se faire repérer par les Rangers. Il se serait plutôt débarrassé du corps hors du parc, au bord d'une route secondaire par exemple, afin de pouvoir prendre rapidement la fuite. Mais la plus grande faille de ce scénario est qu'un tueur n'aurait tout simplement pas pu accéder à Baby Creek, où on a trouvé Charles. C'était techniquement impossible de circuler dans le parc à cause de 2,50 m de neige. Même à motoneige, un homme aurait coulé dans la poudreuse. Certains ont émis l'hypothèse que le jeune photographe aurait été tué par un ours noir. Des cas d'attaque ont déjà été observés à Crater Lake. Mais c'est ridicule, car les plantigrades hivernent au mois de janvier. Concernant l'absence des vêtements de Charles, les spécialistes l'expliquent par un phénomène appelé déshabillage paradoxal. Lorsque la température corporelle baisse en dessous de 35 degrés, l'hypothermie démarre. On grelotte, on se raidit et on a du mal à se mouvoir. Si la température chute encore, les fonctions vitales ralentissent. On se sent confus, désorienté, comme sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. En cas d'hypothermie sévère, le corps humain envoie du sang chaud vers les extrémités dans le but de réduire la perte de chaleur. Mécanisme surprenant, le cerveau envoie un faux message à l'individu qui ressentirait une bouffée de chaleur et paradoxalement serait tenté d'enlever ses vêtements, ce qui ne ferait qu'aggraver son cas. À partir d'un certain stade, l'hypothermie entraîne la perte de connaissance et la mort. Charles aurait-il été affecté par ce syndrome de déshabillage paradoxal? Quelle que soit la cause de la mort de Charles, naturelle ou criminelle, rien ne permet d'expliquer la disposition curieuse de ses vêtements sur le sol. Et surtout, comment il a pu rallier Baby Creek sans chaussures, il faut le rappeler. Pour terminer, et sans trop empiéter sur la partie 4 du livre, donc la partie dans laquelle je développe tout un tas de théories alternatives, il faut que vous sachiez que si Crater Lake est l'un des plus beaux parcs nationaux des États-Unis, c'est un lieu considéré comme maléfique par les Amérindiens qui vivent dans la région. La zone de Crater Lake est vraiment très étrange. Les noms des quelques îles du lac sont assez évocateurs. Jugez plutôt. Wizard Island, l'île du sorcier. Ghost Ship, bateau fantôme. Une formation rocheuse sur le pourtour du lac s'appelle Devil's Backbone, la colonne vertébrale du diable. Les tribus indiennes, Klamath et Modoc, ne vont jamais à Crater Lake, parce que pour elles, il est habité par des esprits démoniaques et les gens y disparaissent. Et il faut le reconnaître, ça n'est pas faux. Depuis le 19e siècle, de multiples personnes se sont vaporisées dans le secteur, notamment des photographes. En 1911, un certain Bibi Bakowski a disparu juste après avoir photographié le lac sous la neige, exactement comme le jeune McCullough. En 1956, un touriste est mort en essayant de photographier Ghost Ship. Et depuis 1927, une douzaine de personnes ont perdu la vie en glissant sur les portes bordant le lac. Plus étonnant encore, il semblerait que beaucoup de bateaux aient coulé dans les eaux insondables du lac. Même chose dans les airs. On ne compte plus les hélicoptères et les avions qui se sont crashés dans le coin. Citons entre autres un bombardier torpilleur Grumman de l'US Navy en mai 1944 et un avion de tourisme Cessna en 1978. Les sceptiques n'y verront bien sûr qu'une banale série d'accidents et rien de surnaturel. On dit notamment que les eaux du Crater Lake sont tellement pures que le ciel s'y reflète et qu'on peut confondre le ciel avec le sol, et ce qui tromperait les aviateurs. Mais ça n'est pas terminé. Le célèbre Bigfoot aurait également été aperçu aux abords du Crater Lake. Des rangers ont témoigné avoir suivi dans les bois une grande créature sombre à l'odeur nauséabonde qui leur aurait jeté dessus des pommes de pin. Et pour compléter le tout, des lumières étranges sont fréquemment rapportées dans le ciel. En février 1997, un pilote de jet privé a rapporté avoir vu des avions de chasse poursuivre des ovnis au-dessus du lac. Le Crater Lake est-il réellement hanté ou maudit? Rien ne permet de l'affirmer avec certitude, mais c'est assurément l'un des endroits les plus mystérieux des USA, ce qui contribue à donner une saveur encore plus énigmatique à la disparition de Charles McCullough. Voilà, chers auditeurs, auditrices, c'est la fin de l'émission consacrée à la disparition de Charles McCullough. J'espère que ça vous a plu. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette histoire et en retrouver beaucoup, beaucoup d'autres, je vous invite donc à acheter mon livre, donc Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses aux USA. Donc vous pouvez le trouver donc sur Amazon, en e-book, mais aussi en livre broché. Puis je pense qu'en plus il a un prix plutôt abordable, donc voilà. Vous pouvez aussi m'envoyer vos histoires, hein, si vous avez une expérience un peu étrange qui vous est arrivée. Voilà, donc je suis toujours preneur. Et voilà, en attendant, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2017. Je vous dis à très bientôt, hein. Portez-vous bien. Peace.
Kept us awake with false teeth, sharing different hearts.